Vous êtes avec SBS French.
Chers auditeurs, avant de plonger dans notre podcast d'archives, permettez-nous de vous offrir un brin de contexte. Ces enregistrements sont des témoins du passé, des fragments historiques précieux. Nous vous invitons à écouter avec curiosité et respect en explorant les voix et les sons qui ont façonné notre histoire, tout en acceptant que les propos sont eux aussi des moments d'archives et peuvent, dans certains cas très rares, porter à confusion aujourd'hui. Merci de votre compréhension et bon voyage dans nos archives.
Le très grand plaisir d'accueillir sur les ondes de Radio SBS en Australie, Annick Cogan, grande reporter avec le journal Le Monde. Bienvenue sur les ondes en Australie.
Merci beaucoup.
Et donc, vous venez prochainement nous rendre visite. Quel est le but de ce voyage en Australie et parler de ces conférences que vous allez donner?
Écoutez, je suis vraiment très très heureuse. C'est l'Alliance française qui m'invite à faire une petite tournée dans plusieurs villes d'Australie. Et je l'avais déjà fait il y a 3 ans au Brésil. Dans le passé, j'avais beaucoup parlé d'un livre que je venais de faire qui racontait la vie des femmes dans le règne de Kadhafi en Libye, et plus généralement je parlais du sort des femmes dans la guerre. J'ai été frappée en tant que grand reporter au Monde et par beaucoup de mes voyages et de mon expérience, j'ai vraiment été frappée par la façon terrible par laquelle on traitait les femmes, quels que soient les pays d'ailleurs, mais particulièrement dans les pays en guerre ou les pays en dictature, et notamment dans le Moyen-Orient. Et le hasard a fait que j'ai eu l'occasion de rencontrer des femmes en Libye, d'enquêter sur la Libye pendant la révolution et après la mort de Kadhafi, et de recueillir des témoignages qui étaient absolument effrayants. Et à la suite de ça, j'ai écrit un livre qui racontait une des facettes qu'on ignorait totalement du dictateur libyen, la façon dont il entretenait un harem et la façon dont il s'entourait de femmes en se proclamant presque comme un homme moderne ou comme un féministe, alors qu'en fait, toutes les femmes en uniforme autour de lui qui étaient supposées protéger sa vie, dont il disait avoir fait ses gardes du corps, étaient en fait ses esclaves sexuels. Beaucoup de gens étaient fascinés en Occident, je trouve, par Kadhafi, et je trouvais vraiment important qu'on dise enfin la vérité et le martyr qu'avaient souffert toutes ces femmes. Et puis après, j'ai enquêté sur la guerre en Syrie, et là aussi, j'ai vu que la façon dont on traitait les femmes, évidemment, par Daesh, l'État islamique, ou dans les prisons de Bachar el-Assad et l'Assad, la première chose qu'on faisait aux femmes, c'était violer. Et vraiment, ces sujets m'ont particulièrement bouleversée et m'ont donné envie davantage de porter attention où que j'aille à la situation des femmes. Alors évidemment, on peut élargir à ça. Il n'y a pas que dans les dictatures ou les pays islamistes, mais la façon dont le phénomène MeToo a résonné dans le monde entier a permis d'attirer l'attention aussi, je trouve, sur le sort des femmes. Et j'essaie autant que possible, c'est pas une spécialité si vous voulez, mais c'est un très fort intérêt. À chaque fois, j'essaie de porter mon regard sur la situation que l'on fait aux femmes.
Et donc, ce sont là des combats qui vous tiennent à cœur?
Oui. Ça me tient à cœur. Vous savez, j'ai fait beaucoup de choses au Monde. Ça fait plus de 30 ans que je suis journaliste au Monde et une vingtaine d'années que je suis grand reporter. Ça ne veut pas dire grand-chose, grand reporter. Ça veut dire qu'on n'est pas spécialisé, qu'on peut être amené à partir sur n'importe quel terrain, en général pour faire de longues enquêtes ou de longs reportages. J'ai beaucoup de place, effectivement, dans ces cas-là, dans le journal. Et c'est vrai que j'ai couvert des tremblements de terre, j'ai couvert des guerres, j'ai couvert des révolutions. Au printemps dernier, j'étais en Arménie pour ce qu'on a appelé la révolution de velours. Donc c'est vrai que j'ai pas mal d'expérience, mais que c'est peut-être mon tropisme personnel, en tout cas, me donne envie de plus en plus. Ayant été témoin de tant d'injustices et de tant d'inégalités entre les hommes et les femmes, que j'ai pas ce devoir, je vais pas parler de mission non plus, mais en tout cas j'ai un très fort attrait sur les sujets, en tout cas la situation faite aux femmes. Voilà, j'écris aussi sur bien d'autres choses, évidemment. Mais c'est peut-être ça dont je crois que nous parlerons essentiellement en Australie.
Vous parlerez aussi sur votre dernier livre, « Je ne serais pas arrivé là si... » 27 femmes racontent.
Oui, alors ça, c'est très différent. C'est vrai, vous avez raison. Bien sûr que je vais parler de ça, parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça, franchement. Chaque semaine, j'interroge des hommes et des femmes. Et là, j'ai fait un livre uniquement avec des témoignages de femmes. Et mes interviews, qui sont des interviews au long cours, quelquefois je passe 3 heures avec la personne, quelquefois un peu moins, mais on peut quelquefois passer un après-midi ensemble, on part toujours de cette phrase, je ne serais pas arrivée là si... 3 points de suspension. Et à partir de là, effectivement, c'est le début d'une conversation. On rentre dans un dialogue, on plonge la personne en face de moi et moi-même dans l'inconnu, parce que je ne sais jamais ce qu'elles vont me dire, et je rebondis. Et au fil du temps, la conversation finalement arrive à évoquer les ressorts personnels de chaque interlocuteur ou interlocutrice. Et il se trouve que, ayant rencontré comme ça une trentaine de femmes, là j'en ai choisi 27, qui vont d'une ministre française, peut-être Christiane Taubira, à Nicole Kidman, l'actrice australienne, mais aussi à John Baez, à Patti Smith, à Marianne Faithfull, ou bien à Véronique Sanson en France, ou Virginie Despentes, Amélie Nothomb, des gens vraiment aux personnes, des personnalités extrêmement diverses, eh bien, toutes ces conversations me disent beaucoup de choses sur ce que c'est qu'une vie de femme, les combats, les difficultés, comment elles se sont imposées dans un monde où les règles ont été principalement forgé par des hommes. Beaucoup ont connu de la violence. Je vous avoue que c'est ce qui m'a sidérée les premières fois, parce qu'un tiers des femmes que j'ai interviewées, et je ne le savais pas avant, ont subi des violences diverses dans leur famille ou conjugales ou des viols. Et puis on parle pas que ça, bien sûr, mais comment on se construit, comment face au deuil, face aux adversités, etc., on dessine une vie. On sait pas, c'est vertigineux quand on a 15 ou 20 ans. Et puis j'interroge ces femmes qui en ont 45, 50, 60, 70. Et c'est assez fascinant de se retourner et de parler à bâton rompu, sans entrave et avec beaucoup de sincérité sur ce qui a fait ce qu'on appellera un destin, mais qui se forge au jour le jour. Et toutes ces femmes, quand on relit leurs témoignages mis bout à bout, nous donnent une impression de sororité. Elles sont pourtant très différentes. Vous savez, entre Nicole Kidman et Christiane Taubira, ou bien entre, je sais pas, John Baez et, je sais pas, Amélie Nothomb ou Brigitte Bardot, puisque j'ai passé beaucoup de temps aussi avec Brigitte Bardot, on peut se dire, elles n'ont vraiment rien en commun. Et ben, quand on les lit, quand on les écoute, au fil des pages, on se rend compte que malgré tout, il y a beaucoup de choses en commun entre ces femmes qui ont toutes beaucoup de force, ont eu des coups, vraiment, des blessures, et finalement, ce sont des femmes debout, voilà. Et ça, je trouve que c'est de les écouter donne beaucoup de force, y compris aux très jeunes femmes qui me lisent, aux jeunes filles qui ne savent pas encore de quoi va être faite leur vie, et je trouve que ça donne beaucoup d'ardeur et de courage.
Parlons de Nicole Kidman dans ce contexte australien. Ce qui vous a marqué le plus chez elle?
Écoutez, elle était extrêmement sympathique, vraiment très joyeuse. Et ça, alors je ne savais pas du tout ce qu'elle allait me répondre. Nicole Kidman, je parlais en anglais. I wouldn't be where I am now if. Oh, et elle m'a dit, oh, this is so easy. I wouldn't be where I am now if I hadn't have a very feminist mother. Et alors là, elle m'a raconté une enfance en Australie, à Sydney, où elle avait la peau tellement blanche qu'il fallait absolument la protéger du soleil, et que quand l'ensemble de ses amis ou dans sa famille, tout le monde allait dehors pour les barbecues, à la piscine, etc., ouais. elle restait la plupart du temps dans sa chambre, et sa mère lui donnait une liste de livres à lire, absolument. Et c'est comme ça que très vite, à 10 ans, à 12 ans, elle avait déjà lu un nombre de livres, des chefs-d'œuvre de la littérature russe, des chefs-d'œuvre de la littérature française, américaine, etc. Et que très vite, elle a voulu aller faire du théâtre. Et ses parents ont voulu tester un peu cette envie et lui avaient dit « on ne te conduira pas, tu feras comme tu voudras ». Et donc, le samedi matin, elle prenait un bus, un deuxième bus, un troisième bus, toute seule, pour aller suivre ses cours à Sydney. Et c'est comme ça que petit à petit, elle a émergé. Et cette l'empreinte ou l'influence de sa mère féministe, engagée, avec une très forte personnalité, a été fondamentale tout au long de sa vie. Et maintenant qu'elle habite à Nashville, qu'elle a elle-même une petite fille, je crois, elle a un engagement féministe très important. Très important. Sa mère, d'ailleurs, a eu un cancer et a été heureusement bien soignée. Et donc, elle s'engage également pour le cancer, mais aussi beaucoup pour les droits des femmes. Elle travaille à l'ONU. Elle a témoigné auprès du Sénat américain sur les violences faites aux femmes. Et j'avoue que j'ignorais ça. Je ne savais pas qu'elle était aussi ardente, aussi féministe. Mais ça m'a fait beaucoup plaisir de découvrir une personnalité aussi forte, aussi riche et aussi ouverte.
Et ce livre est aussi un hommage à votre maman, si je comprends bien.
Ah oui, oui, vraiment. Écoutez, quand j'ai commencé à faire ces interviews, c'était un peu après la mort de maman. J'avais un lien très fort avec cette maman qui était merveilleuse, qui était solaire, que tout le monde adorait, et que je partageais avec beaucoup de gens, parce que j'ai deux frères, mais elle était tellement rayonnante et gentille que tout le monde me l'enviait. Et pourtant, je ne la voyais pas souvent. Elle habitait dans un petit village en Bretagne, et moi, pendant ce temps-là, je faisais le tour du monde. Mais on s'écrivait d'abord, il n'y avait pas beaucoup de téléphone, puis après, on se faisait des petits mots, des petits textes. Elle suivait mes aventures de loin, mais c'était ma meilleure amie. Et puis voilà qu'un jour, je suis partie en reportage en Birmanie. Il n'y avait pas le téléphone en Birmanie, c'était pourtant il y a 5 ans. Et c'est-à-dire que pendant 8 jours, on ne s'est pas parlé parce que le téléphone ne passait pas. Et ça n'est que quand j'ai atterri à Paris, sur mon téléphone, il y avait un appel qui me signalait qu'elle venait de tomber dans le coma. Et le temps que je prenne le train, elle était morte. Et je m'en suis pas remise. J'en ai perdu le souffle. C'était une telle... c'est arrivé tellement soudainement que ça m'a bouleversée, comme beaucoup de gens, mais choquée. Je ne pouvais pas croire qu'on puisse... moi qui ai pourtant suivi des guerres, des tremblements de terre, j'ai vu des choses terribles et je suis toujours en profonde empathie avec les gens. Mais là, ce choc si soudain, cette rencontre si brutale et personnelle avec la mort m'a énormément marqué. Et si bien que quand j'ai fait ces interviews, et à chaque fois que je rencontre ces hommes et ces femmes pour faire de longues interviews, et je pense que j'ai un autre questionnement maintenant, que je n'ai pas peur d'aborder ces questions qui me faisaient peur sans doute avant, ou que j'avais peur de gêner les gens en leur posant la question de la mort, en leur posant la question de l'absence, du deuil. Qu'est-ce qu'on fait face au silence de l'être aimé? Et ça me frappe de voir que les gens sont contents de parler de ça, que quand on a perdu quelqu'un d'important, on aime en parler, on en parle volontiers. J'avais peu de temps, par exemple, à passer avec Patti Smith, et tout de suite on a parlé de ça. L'absence, qu'est-ce qu'on fait avec ce silence? Et quand on a perdu des gens qu'on aime, comment fait-on? Et elle parlait de ça en s'interrogeant devant moi. Et c'était magnifique de l'avoir cherché ces mots, de réfléchir avec moi et de dire, vous voyez, moi, pour essayer de m'en sortir, je prenais des photos, une photo par jour, un Polaroid. Il fallait que ce soit réussi, mon Polaroid. Et puis un jour, j'arrivais pas. je voyais mon sujet devant moi, j'avais mon doigt sur la Polaroid et je trouvais que ça allait pas. J'arrivais pas à la prendre, cette photo. Et puis, j'ai comme entendu une voix dans ma tête me dire, attends, un petit peu plus à droite, un petit peu plus bas et un tout petit peu plus à droite. Et elle me dit, c'était Robert. Vous savez que son grand amour a été Robert Mapplethorpe, qui était un immense photographe et qui est mort il y a de nombreuses années. Ben voilà, dit-elle, voilà, les absents quelquefois sont plus présents qu'on ne croit. Et de tout ce choc que j'ai eu et que j'ai pu partager quelquefois dans des conversations avec des gens, ben m'a aussi fait beaucoup de bien. Si bien que ce livre, c'était très important que je le fasse, d'abord parce que ces femmes, je pense, donnent beaucoup de force à tous ceux qui le lisent et lisent leurs interviews, mais aussi c'était l'occasion pour moi de faire une préface un peu plus personnelle, c'est vrai. C'est la première fois que moi, journaliste, je pouvais écrire « je » à la première personne, donc, et j'avais vraiment envie que ma mère soit associée à ce livre et pouvoir écrire son nom quelque part, et de dire que moi aussi, je pouvais répondre à cette question, je ne serais pas arrivée là si... Eh bien, si j'avais pas vécu une histoire d'amour incroyable avec une maman solaire. Voilà.
Et c'est votre maman qui vous a encouragé à l'époque à devenir journaliste, reporter?
Écoutez, elle était très surprise, vous savez, parce qu'on habitait dans un petit village. Mon père était notaire, on était surtout entouré de paysans dans mon petit village breton. Donc on connaissait pas de journalistes, on a eu la télévision assez tard, enfin bon, tout ça était un monde inconnu. Mais quand je disais à 15 ans, ouais, je crois que j'ai envie d'être journaliste, maman, je veux faire le tour du monde, je vais aller très loin, etc. Elle trouvait ça très naturel. Et pour elle, c'était, bien sûr, le monde était ouvert pour moi. Rien n'était impossible. Elle avait deux principes. Il fallait se montrer gentil. Voilà, c'était la clé. Et surtout, pas avoir de freins et de limites dans sa tête. Et que si on se comportait bien, ben le monde s'ouvrait et que les choses seraient faciles. Et j'ai eu beaucoup de chance, mais c'est vrai que de ne pas avoir d'œillères et d'avoir cette maman comme ça qui était si ouverte, pour laquelle rien n'était impossible. Et pourtant, elle était discrète et pourtant, elle a vécu toute sa vie dans ce petit village. Mais oui, je crois que ça a été pour moi une inspiration. Voilà. Si on se comporte bien et qu'on est, on peut avoir toutes les audaces à condition d'être gentil et de faire attention aux autres. En tout cas, elle le fait. Donc j'hésite à continuer, mais j'ai l'impression que je suis beaucoup moins bien qu'elle. Mais en tout cas, je peux dire qu'elle m'a certainement, elle m'a donné des ailes. Oui, et sans doute une facilité de contact avec les gens. Vous savez, quand on est journaliste, là. Il y a des règles, évidemment, il y a une éthique, une déontologie, vous le savez bien. Mais notre matière première, c'est les gens. Il n'y a que ça. Quand je vais rencontrer quelqu'un pour faire une interview, qui va devenir là, c'est mon métier, ça va être la matière de mon papier, de mon article à écrire, ben c'est uniquement deux personnes qui vont se regarder les yeux dans les yeux, qui vont se parler, qui vont essayer de s'entendre et de nouer un dialogue qui en plus sera utile et fera écho chez les gens qui vont me lire ou m'entendre. Je trouve que c'est formidable ce métier parce que effectivement la matière première c'est uniquement le souffle humain et j'aime ça.
Peut-on parler de vos projets après votre séjour en Australie? Est-ce que vous allez écrire un nouveau livre ou vous allez revenir sur le terrain comme reporter?
Bon, écoutez, récemment, j'ai eu l'occasion, j'ai surtout écrit la préface, mais j'ai fait un livre sur Simone Veil. C'est un livre de photos et vous savez qu'elle est rentrée au Panthéon français pour une fois. Il y a tellement peu de femmes au Panthéon et je pense qu'elle est vraiment une des héroïnes du XXe siècle et je pense que pour les jeunes filles, c'est très important qu'on ait des personnes marquantes qui nous inspirent, qui nous fassent rêver. Et donc l'entrée de Simone Veil a comme ça, je crois, fait beaucoup de bien, le fait qu'on considère qu'elle est entrée dans notre histoire. Et donc j'ai écrit plutôt à la demande de ses fils la préface d'un livre photo. Et depuis d'ailleurs, je vais travailler un roman graphique. Alors, on pourrait dire, le terme roman graphique est devenu très à la mode, mais on va dire c'est comme une BD, hein, une bande dessinée, mais ça a la forme d'un, comme d'un roman, et qui racontera un peu la vie de Simone Veil à travers quelques rencontres comme ça que j'ai pu faire. Donc c'est une nouvelle, c'est quelque chose de très, très étrange pour moi, une expérience totalement nouvelle. Ça, je vous avoue que c'est la première fois que j'en parle tout fort d'ailleurs, parce que j'ai commencé tout juste avec un scénariste et un dessinateur, et je l'ai pas du tout encore annoncé. Mais enfin, voilà, c'est un des projets. Et puis après, je repartirai en reportage. Mais ce qui m'embête, c'est que j'ai eu tellement de travail ces derniers temps que j'ai pas pu préparer mon voyage en Australie comme je le voudrais, parce que je me dis que sur place, malheureusement, je vais aller très très vite et un peu de ville en ville. Mais je suis tellement heureuse d'aller en Australie. J'ai déjà eu tellement de plaisir. J'y étais la dernière fois en l'an 2000 pour les Jeux Olympiques. Et d'ailleurs, j'avais fait un petit livre qui s'appelait « L'échappée australienne
oui. »,
dans laquelle on avait repris plusieurs articles, les articles que j'avais écrits en traversant l'Australie, en prenant, vous savez, ce fameux train, l'Indian Pacific. J'ai adoré ça. J'étais arrêtée à Kalgoorlie, Broken Hill, Kalgoorlie, Perth, etc. Broome, Darwin, Eyre Rocks, enfin bon. Et c'était merveilleux. Et là, je me dis, mais si j'avais le temps de passer quelques jours, bah oui, je vais trouver des sujets pour lesquels je pourrais écrire et peut-être trouver une bonne raison de revenir professionnellement et cette fois-là envoyé par le monde, parce que je crois qu'il y a beaucoup de sujets évidemment en Australie. Donc voilà, vous voyez, j'ai pas encore de d'autres livres sauf ce roman graphique, mais j'aimerais bien en Australie trouver peut-être l'idée par des rencontres que je vais faire. J'espère qu'après chaque conférence, d'ailleurs la plupart des conférences seront beaucoup sous forme de conversation, c'est plus vivant et ça me permettra aussi de voilà d'avoir des échanges avec des gens. Ben j'espère avoir de l'aspiration pour revenir et écrire voilà dans le monde sur l'Australie.
Annick Cogent, merci infiniment d'être intervenue sur les ondes de Radio SBS en Australie et à très vite.
Merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir.
Merci à vous.
Merci.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.